Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose un peu concernant, je me permets de le dire, parce que c'est un livre que j'ai lu en 1968, Le secret des Védas. C'est-à-dire, c'est un extrait du passage de Sri Aurobindo et de la transformation du monde que nous avons lu à Mer. Ce manuscrit, jamais publié, est la première ébauche de l'aventure de la conscience. Alors, ça parle d'Agni. Et pour moi, je me permets de le dire, à la mémoire et à la présence de Kirit, qui était l'ouvrier divin, et le héros et l'ouvrier divin, c'est Agni. Nous avons choisi, semble-t-il, depuis Adam, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais sur cette voie, il n'est pas de demi-mesure ni de repentir. Car si nous resterons prostrés, le nez dans la poussière, sous l'effet d'une fausse humilité, les titans et les djinns qui sont parmi nous sauront fort bien s'emparer du pouvoir dont nous n'avons pas voulu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils écraseront le Dieu qui est en nous. Il s'agit de savoir si oui ou non nous voulons laisser cette terre entre les mains de l'ombre pour nous évader une fois de plus dans nos divers paradis, ou si nous voulons prendre le pouvoir, ou d'abord le trouver, ou le refaire, sur cette terre à une image plus divine, et selon la parole des rishis, que la terre et le ciel soient égaux et un seul. Il y a un secret, c'est évident. Toutes les traditions en témoignent, qu'il s'agisse des rishis, ou des mages de l'Iran, des prêtres de la Chaldée, ou de Memphis, ou de Yucatan. Lorsqu'il lut pour la première fois les Védas dans la traduction des sanskritistes d'Occident, ou dans celle des pandites indiens, Sri Aurobindo n'y avait vu qu'un document de quelque intérêt pour l'histoire de l'Inde, mais qui semblait de peu de valeur ou de peu d'importance pour l'histoire de la pensée ou pour une expérience spirituelle vivante. 15 ans plus tard, Sri Aurobindo relisait les Védas dans l'original et y trouvait une veine continue de l'or le plus riche, tant par la pensée que par l'expérience spirituelle. Entre-temps, Sri Aurobindo avait eu une série d'expériences intérieures particulières qui n'expliquaient guère la psychologie européenne, ni les écoles de yoga, ni les enseignements du Vedanta, mais que les mantras védiques éclairaient d'une lumière exacte. C'est dans le livre « Le secret des Védas ». C'est donc parce qu'il avait eu ces expériences particulières que Sri Aurobindo fut à même de découvrir de l'intérieur le vrai sens du Veda, et notamment du plus ancien des 4 Védas, le Rig Veda, qui a particulièrement étudié. Le Veda ne lui apportait qu'une confirmation de ce qu'il avait reçu directement. Mais les rishis ne disaient-ils pas eux-mêmes « Parole secrète, sagesse du voyant, qui révèle leur sens intérieur au voyant » Rig Veda 4, 3, 16. Ce n'est pas en vain que le feu, Agni, était au centre des mystères védiques. Agni, la flamme intérieure, l'âme en nous, et qui ne sait que l'âme est du feu. L'aspiration innée que tire l'homme vers les hauteurs. Agni, la volonté ardente de cela qui voit en nous depuis toujours et qui se souvient. Agni, le prêtre du sacrifice, l'ouvrier divin, le médiateur entre le ciel et la terre. Rigveda 3, 3, 2. Il est là, au milieu de la demeure. 1, 72. Les pères qui ont la vision divine l'ont mis au-dedans, comme un enfant à naître. Il est l'enfant caché dans la caverne secrète. 5, 2, 1. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre éternel enfant. Ô Fils du corps, ô feu, Fils du ciel par le corps de la terre, immortel dans les mortels, vieux et usé, il devient jeune encore et encore. Quand il naît, il devient la voix de la divinité. Quand il a été façonné dans la mer comme la vie qui pousse dans la mer, il devient le galop de vent dans son mouvement. Ô feu, quand tu es bien porté par nous, tu deviens la suprême croissance, la suprême expansion de notre être. Toute gloire et toute beauté sont dans ta couleur désirable, dans ta vision parfaite. Ô étendue, tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. Tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés. Ô feu qui voit avec une vision divine, vivant, océan de lumière, aux flammes, aux cent trésors, aux connaissances de toutes choses nées. Mais nous n'avons pas le seul privilège du feu divin. Agni n'est pas seulement dans l'homme, il est le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses qui ne bougent pas et le fils des choses qui se meuvent. Il est même dans la pierre, il est là. Mais nous ne sommes pas encore au cœur du secret védique. La naissance d'Agni, l'âme, tant que les hommes ne sont pas nés, est seulement le début du voyage. Cette flamme intérieure, elle cherche. Elle est le chercheur en nous. Parce qu'elle est une étincelle du grand premier feu et qu'elle ne sera jamais satisfaite qu'elle n'ait trouvé sa totalité solaire. Le soleil perdu, Matanda, dont parle sans cesse le Veda. Mais quand nous nous sommes élevés de plans en plans et que la flamme sera née successivement dans le triple monde de notre existence inférieure, physique, vitale et mentale, elle ne sera pas satisfaite encore. Elle veut monter et monter et nous arrivons bientôt à une frontière mentale où il semble qu'il n'y ait plus rien à étreindre, plus rien à voir même, et qu'il faille tout abolir pour sauter dans l'extase d'une grande lumière. On sent alors, tout autour, presque douloureusement, cette carapace de matière qui nous emprisonne et qui empêche l'apothéose de la flamme. On comprend alors le cri de celui qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et les sages védantins en Inde, et peut-être même les sages de tous les mondes et de toutes les religions, qui n'ont cessé de dire « Il faut quitter ce corps pour embrasser l'Éternel. Notre flamme sera-t-elle donc toujours tronquée ici-bas? Notre quête toujours déçue? Faudra-t-il toujours choisir l'un ou l'autre et renoncer à la terre pour le ciel? Ça, c'est des questions. Mais par-delà le triple monde inférieur, les Rishis avaient découvert un certain quatrième, Turyamsvid. Ils avaient trouvé la vaste demeure, le vaste monde solaire, Svar. Je me suis élevé de la terre au monde du milieu, la vie. Je me suis élevé du monde du milieu jusqu'au ciel, le mental. Du firmament céleste, je suis allé au monde solaire, à la lumière. Yajur Veda, 1767. Et il est dit, mortel, ils accomplirent l'immortalité. Quel est donc leur secret? Comment sont-ils passés du ciel mental au grand ciel sans quitter ce corps, sans s'extasier, si l'on peut dire? Le secret est dans la matière, parce que c'est dans la matière qu'est enfermé Agni et que nous sommes enfermés. Il est dit qu'Agni est sans tête et sans pied, qu'il cache ses deux extrémités. En haut, il disparaît dans le grand ciel du supraconscient que les Rishis appelaient encore le grand océan. Et en bas, il s'enfonce dans l'océan sans forme de l'inconscient qu'ils appelaient aussi le roc. Nous sommes tronqués. Mais les Rishis étaient des hommes d'une solide réalité, le vrai réalisme, celui qui s'appuie sur l'esprit. Et puis, puisque les sommets du mental s'ouvraient sur une lacune de lumière extatique, certes, mais sans prise sur le monde, alors ils se mirent en route par le bas. Alors commence la quête du soleil perdu. Le long pèlerinage de la descente dans l'inconscient et la lutte sans merci contre les forces obscures, les voleurs du soleil, Pani et Vritra, Python et Géant, cachés dans l'enclos obscur, avec toute la cohorte des usurpateurs, ceux qui dualisent, ceux qui obstruent, ceux qui déchirent, et ce qui couvre. Mais l'ouvrier divin, Agni, est aidé par les dieux et il est conduit dans sa quête par le rayon intuitif, Sarama, le chien céleste au flair subtil, qui le met sur la piste des troupeaux volés, étranges troupeaux qui brillent. Et parfois une aurore fugitive éclate, puis tout s'efface. Il faut avancer pied à pied, creuser, lutter contre les loups qui se déchaînent. Plus on approche du repère. Agni est un guerrier. Agni grandit par ses difficultés. Sa flamme devient de plus en plus étincelante sous les coups de l'adversaire. Mais les Rishis ne disaient-ils pas « La nuit et le jour allaitent tous deux l'enfant divin. » Ils disaient même que la nuit et le jour sont deux sœurs immortelles ayant un même amant, le soleil. Communes en vérité, bien que différentes par leur forme. les alternances de nuit et de clarté se précipitent. Arrive le jour enfin, et les troupeaux de l'aurore. Alors, il y a deux, rappelons Homère et les troupeaux d'Hélios. Surgissent, éveillant quelqu'un qui était mort. Le roc infini de l'inconscient est brisé. Et le chercheur découvre le soleil qui demeure dans l'obscurité, la conscience divine au cœur de la matière. Tout au fond de la matière, c'est-à-dire dans le corps, sur la terre, les rishis se sont trouvés précipités dans la lumière, cette même lumière que d'autres cherchaient en haut, sans leur corps et sans la terre et dans l'extase. C'est ce qu'ils appellent le grand passage. Sans quitter la terre, ils avaient trouvé la vaste demeure, qui est la propre demeure des dieux. Svar, le monde solaire originel que Sri Aurobindo appelle le monde supramental. Alors, cette phrase, elle est extrêmement, extrêmement importante. Cette même lumière que d'autres cherchaient en haut, sans leur corps et sans la terre dans l'extase, c'est ce qu'ils appellent le grand passage. Sans quitter la terre, ils avaient trouvé la vaste demeure. Sans quitter la terre, qui est leur propre demeure des dieux, Svar, le monde solaire originel que Sri Aurobindo appelle le monde supramental. Être humain, les rishis soulignent bien qu'ils sont des hommes, ayant mis à mort celui qui couvre. Ils traversent la terre et le ciel, la matière et le mental, c'est-à-dire c'est entre guillemets, qu'est-ce qu'est la matière et qu'est-ce qu'est le mental, la terre et le ciel, et firent du vaste monde leur demeure. Ils étaient entrés dans le vaste, le vrai, l'exact, Brihat, Satyam, Ritam, la lumière qui n'est pas brisée, la lumière qui est sans peur, car là, il n'est plus de souffrance, ni de fausseté, ni de mort. C'est l'immortalité Amritam. Tout est réconcilié. Le rishi est le fils des deux mères. Il est le fils d'Aditi, la vache lumineuse, la mère de l'infinie lumière, la créatrice des mondes. Mais il est aussi le fils de Diti, la vache noire, la mère de l'infini ténébreux et de l'existence divisée, car Diti est finalement au bout de son apparente nuit, nous donne le lait du ciel et la naissance divine. Tout est accompli. Le rishi, d'un même mouvement, les forces humaines et les forces divines. Le rishi tient d'un même mouvement les forces humaines et les forces divines. Il a réalisé l'universel dans l'individuel. Il est devenu l'infini dans le fini. Alors, ton humanité deviendra comme l'œuvre des dieux, comme si le ciel de lumière était visiblement fondé en toi. Et loin d'éclater la terre, il prie. Ô divinité, garde-nous pour nous l'infini et prodigue-nous le fini. Le voyage s'achève. Agni a retrouvé sa totalité solaire, ses deux extrémités cachées. L'œuvre inviolable est accomplie. Car Agni est le lieu et le haut et le bas se rencontrent, où le haut et le bas se rencontrent. Et en vérité, il n'est pas plus haut ni de bas. Il n'est plus qu'un seul soleil partout. Ô flamme, tu vas à l'océan du ciel vers les dieux. Tu fais se rencontrer les divinités des plans, les eaux qui sont dans le royaume de la lumière, au-dessus, au-dessus du soleil, et les eaux qui demeurent en bas. Ô feu, ô divinité universelle, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et leurs habitants. Tu diriges tous les hommes. Nais et tu les portes comme un pilier. Ô flamme, tu fondes le mortel dans une suprême immortalité. Tu crées la félicité divine et la joie humaine, car la joie est le cœur du monde. Elle est au fond des choses. Elle est le puits de miel couvert par le roc. Sri Aurobindo, mais c'est un extrait qui est publié dans l'agenda de mer du 30 octobre 1961 et que Satprem lit à mer. Concernant un extrait du passage de Sri Aurobindo et de la transformation du monde que Satprem donc lit à mer. Alors je dépose cette découverte fantastique pour moi, je me permets de le dire, au pied de Sri Aurobindo et de ma